Chapitre 2 et 3. De Kadès Barnéa au Jourdain. Retour du côté du désert. Et nous nous sommes tournés et nous sommes partis pour le désert par le chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel m'avait dit. Et nous avons tourné autour de la montagne de Séhir plusieurs jours. Chapitre 2, verset 1. Remarquez le petit mot « nous ». Moïse s'unit complètement avec le peuple. Lui, ainsi que Josué et Caleb, durent retourner en direction du désert avec l'assemblée incrédule. À vue humaine, cela pouvait sembler dur, mais il est bon de se soumettre à la volonté de Dieu même si nous ne comprenons pas le pourquoi des choses. Nous n'entendons pas un seul murmure dans la bouche de ces serviteurs de Dieu lorsqu'ils doivent retourner en arrière dans le désert pour près de 40 années, quoique eux-mêmes aient été prêts à entrer dans le pays. D'ailleurs, l'Éternel lui-même allait accompagner le peuple. Ainsi, la patiente grâce de Dieu leur faisait accepter sans murmure un séjour prolongé dans le désert et attendre patiemment le moment fixé pour leur entrer dans la terre promise. Soumission à la volonté de Dieu. Nous recueillons toujours de riches bénédictions lorsque nous nous soumettons humblement à la volonté de Dieu. Nous prenons alors réellement sur nous le joug de Christ, ce qui, comme il nous l'assure lui-même, est le vrai secret du repos. En quoi consiste ce joug? En une soumission absolue à la volonté du Père. C'est ce que nous trouvons d'une manière parfaite dans notre adorable Sauveur. Il pouvait dire « Oui, Père, car c'est ce que tu as trouvé bon devant toi. » Luc 10, verset 21. Son témoignage sur la terre était rejeté par la plupart. Selon les apparences, il avait travaillé en vain et dépensé sa force pour le néant. Il dit néanmoins « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre. » Tout était bien. Il n'avait jamais une pensée ou un désir qui ne soit en parfait accord avec la volonté de Dieu. C'est pourquoi, comme homme, il jouissait toujours d'un repos parfait. Il s'associait au conseil divin, aussi, du commencement à la fin, sa paix ne se troublait jamais. C'était là le joug de Christ, et c'est ce même joug qu'il nous invite à prendre sur nous, afin que nous aussi nous trouvions le repos de nos âmes. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est aisé, et mon fardeau est léger. Matthieu 11, versets 28 à 30. Remarquons ces mots. Vous trouverez le repos. Nous ne devons pas confondre le repos qu'il donne avec le repos que nous trouvons. Quand une âme fatiguée et chargée vient à Jésus avec foi, il lui donne le repos, un repos complet qui découle de la ferme assurance que ses péchés sont ôtés à toujours sur la base d'une justice parfaite. La conscience est tranquillisée. Tel est le repos que Jésus donne lorsque nous venons à lui. Mais ensuite, nous avons à traverser les circonstances de la vie journalière. Il s'y rencontre des épreuves, des difficultés, des luttes, des désappointements de toute espèce. Ces difficultés ne troublent pas la conscience, mais elles peuvent troubler le cœur. Elles peuvent nous donner de l'irritation et de l'impatience. Comment le cœur troublé peut-il être tranquillisé? Il lui faut du repos, et ce repos, il le trouve en s'inclinant et en prenant sur lui le joug de Christ, le joug qu'il porta lui-même durant sa vie sur la terre, le joug d'une entière soumission à la volonté de Dieu. Il faut que nous puissions dire, sans la moindre restriction, et du plus profond de nos cœurs, « Ô Dieu, que ta volonté soit faite !» Il faut que nous ayons un sentiment si réel de son amour parfait envers nous et de son infinie sagesse dans toutes ses voies à notre égard, que nous n'y voudrions rien changer, lors même que nous le pourrions. Le repos du cœur va de pair avec le fait de pouvoir remercier Dieu pour toute chose, quelque contraire qu'elle soit à notre propre volonté et au plan que nous avions formé. Ce n'est pas le simple assentiment à la vérité que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos. Romains 8, verset 28. C'est la certitude qu'une telle chose, quelle qu'elle soit, que Dieu nous envoie, est certainement la meilleure pour nous. C'est une confiance parfaite dans l'amour, la sagesse, la puissance et la fidélité de celui qui a bien voulu se charger de tout ce qui nous concerne pour le temps et pour l'éternité. Avant de quitter ce sujet éminemment pratique, nous remarquerons encore qu'il y a trois attitudes dans lesquelles l'âme peut être trouvée par rapport aux voies de Dieu. La soumission, l'acquiescement et la joie. Si la volonté est brisée, il y a soumission. Lorsque l'intelligence spirituelle est au clair quant au but de Dieu, il y a acquiescement. Et lorsque les affections sont attachées à Dieu lui-même, il y a joie positive. C'est pourquoi nous lisons au 10e chapitre de Luc, « En cette même heure, Jésus se réjouit en esprit et dit, « Je te loue, ô Père Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux petits-enfants. Oui, Père, car c'est ce que tu as trouvé bon devant toi. » Verset 21. Jésus trouvait ses délices à toute la volonté de Dieu. Sa nourriture et son breuvage étaient d'accomplir cette volonté à tout prix. Dans le service ou dans la souffrance, dans la vie ou dans la mort, il n'eut jamais d'autre motif que la volonté du Père. Il pouvait dire « Je fais toujours les choses qui lui plaisent. » Jean 8, verset 29. Dieu guide les siens. Et l'Éternel me parla, disant « Vous avez assez tourné autour de cette montagne. Dirigez-vous vers le nord. » Chapitre 2, versets 2 et 3. La parole de l'Éternel réglait tout. Le peuple n'avait pas à étudier ou à décider ses mouvements. C'était l'affaire de l'Éternel et sa prérogative de tout arranger pour eux. Leur affaire était d'obéir. Il n'est pas fait mention ici de la nuée ni de la trompette. Il n'y a que la parole de Dieu et l'obéissance d'Israël. Rien ne saurait être plus précieux pour un enfant de Dieu, si son cœur est en bon état, que d'être guidé dans tous ses mouvements par la volonté de Dieu. Les Israélites étaient appelés à voyager dans ce grand et terrible désert où il n'y avait pas de route. C'était pour eux un privilège particulier d'avoir chacun de leurs mouvements et chacune de leurs haltes ordonnées par un guide infaillible. Ils n'avaient pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. L'Éternel dirigeait tout ce qui les concernait. Ils n'avaient qu'à s'attendre à lui et à faire ce qu'il leur commandait. Oui, cher lecteur, ce qu'il nous faut, c'est un cœur confiant et obéissant. Là où il fait défaut, les raisonnements et la rébellion surgissent immanquablement. Si, lorsque Dieu avait dit « Vous avez assez tourné autour de cette montagne », Israël avait répondu « Non, nous voulons y rester encore quelque temps ». Si, lorsque Dieu avait dit « Dirigez-vous vers le nord », ils avaient répondu « Non, nous préférons aller à l'Orient ». Qu'en serait-il résulté? Ils auraient perdu la présence de Dieu. Qui, dès lors, les aurait guidés, aidés et nourris? Ils ne pouvaient compter sur Dieu, présent au milieu d'eux, que lorsqu'ils marchaient sur le chemin indiqué par le commandement divin. L'eau découlant du rocher et la manne céleste ne se trouvaient que sur le sentier de l'obéissance. Nous avons, nous, chrétiens, une importante leçon à apprendre de cela. Dieu a promis de nous guider jour après jour. À nous de nous approprier cette promesse en toute simplicité de foi. Comment Israël savait-il de quel côté il devait se diriger? Par la parole de Dieu. Or, nous avons mieux qu'eux, nous avons à la fois la parole et l'Esprit de Dieu pour nous guider. Et nous avons le privilège de pouvoir suivre les traces du Fils de Dieu. Le Seigneur a dit « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8, verset 12. Remarquons ces mots « Celui qui me suit ». Il nous a laissé un modèle afin que nous suivions ses traces. 1 Pierre 2, verset 21. Jésus marchait toujours et uniquement d'après le commandement de son Père. C'était ce qui le faisait agir et parler. Nous sommes appelés à le suivre, et sa propre parole nous assure qu'en le faisant, nous ne marcherons pas dans les ténèbres, mais que nous aurons la lumière de la vie. Nous avons le privilège de pouvoir marcher dans la lumière resplendissante qui luit sur le sentier du Fils de Dieu. Il n'y a là ni hésitation, ni incertitude, ni perplexité. nous n'avons pas une parole spéciale de l'Écriture pour diriger chaque détail de notre conduite. Je ne puis, par exemple, espérer trouver un passage de la Bible ou entendre une voix du ciel me disant d'aller dans telle ou telle ville et d'y rester plus ou moins longtemps. Comment donc puis-je être au clair à cet égard? La réponse est « Attends-toi à Dieu en toute sincérité de cœur et il rendra ton sentier lumineux. » C'était ce que faisait Jésus. Si nous le suivons, nous ne marcherons pas dans les ténèbres. Dieu nous dit « Je te conseillerai, ayant mon œil sur toi. » Psaume 32, verset 8. C'est une promesse des plus précieuses, mais pour en profiter, il faut que nous soyons assez près de lui pour apercevoir les mouvements de son œil, assez intime avec lui pour en comprendre la signification. Combien de difficultés disparaîtraient dans les détails de notre vie journalière, combien de doutes seraient éclaircis si nous attendions la direction divine au lieu d'essayer d'agir sans elle. Et si je n'ai pas de lumière pour avancer, mon devoir est de rester tranquille. Celui qui guida son peuple terrestre dans son voyage à travers le désert peut et veut guider maintenant son peuple céleste en tout et partout. Prenons donc garde de ne pas vouloir faire notre propre volonté ou suivre nos propres plans. Ne soyez pas comme le cheval, comme le mulet qui n'ont pas d'intelligence, dont l'ornement est la bride et le mors, pour les réfréner quand ils ne veulent pas s'approcher de toi. Psaume 32, verset 9. Marchons sur les traces du Seigneur Jésus. C'est ainsi que nos cœurs et nos esprits seront gardés dans une paix parfaite et que nous pourrons avancer d'un pas ferme sur le sentier tracé pour nous par notre guide divin. Le gouvernement de Dieu sur les nations de la terre. Nous attirerons maintenant l'attention du lecteur sur un sujet qui occupe une grande place dans l'Ancien Testament, et en particulier dans ces chapitres, celui du gouvernement de Dieu sur le monde et sur les nations de la terre. Il faut nous rappeler que celui que nous connaissons comme notre Dieu et Père s'occupe des affaires des nations, qu'il prend connaissance de leurs actes, les unes envers les autres. Il est vrai que tout cela est en rapport immédiat avec Israël et la terre qui lui a été promise, comme nous le voyons à la fin de notre livre. Quand le Très-Haut partageait l'héritage aux nations, quand il séparait les fils d'Adam, il établit les limites des peuples selon le nombre des fils d'Israël. Chapitre 32, verset 8. Israël a été et sera encore le centre terrestre pour Dieu. Dès le commencement, le Dieu créateur et gouverneur du monde forma les nations et établit leurs bornes en rapport direct avec la postérité d'Abraham et avec l'étroite bande de pays qu'ils doivent posséder en vertu de l'alliance éternelle faite avec le patriarche. Dans le chapitre 2, nous voyons l'Éternel intervenant pour protéger trois nations contre les empiétements du peuple d'Israël. Vous allez passer par les confins de vos frères, les fils d'Ésaü, qui habitent en Séir, et ils auront peur de vous. Et soyez bien sur vos gardes, vous n'engagerez pas de lutte avec eux, car je ne vous donnerai rien de leur pays, pas même de quoi poser la plante du pied, car j'ai donné la montagne de Séir en possession à Ésaü. Vous achèterez de la nourriture à prix d'argent et vous la mangerez, et l'eau aussi vous l'achèterez d'eux à prix d'argent et vous la boirez. Chapitre 2, versets 4 à 6. Les Israélites auraient pu s'imaginer qu'ils n'avaient qu'à s'emparer du pays des Édomites, mais ils doivent apprendre que le Dieu souverain est le gouverneur des nations, que toute la terre lui appartient et qu'il la partage selon son bon plaisir. C'est là un fait dont, en général, les empereurs, les rois et les hommes d'État ne s'inquiètent guère. Ils oublient que Dieu s'intéresse aux affaires des nations et qu'il distribue les royaumes, les provinces et les pays comme il le juge bon. Il leur semble qu'il ne s'agit que de leur conquête militaire, comme si Dieu n'avait rien à faire avec la question des frontières des nations. Mais Dieu ne renoncera jamais à ses droits à cet égard. Ici, il ne permet pas à Israël de toucher quoi que ce soit des possessions d'Édom. Ils devront payer tout ce dont ils ont besoin et éviter la guerre et le pillage. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans toute l'œuvre de ta main. Il a connu ta marche par ce grand désert. Pendant ces 40 ans, l'Éternel, ton Dieu, a été avec toi. Tu n'as manqué de rien. Chapitre 2, verset 7. Ils pouvaient donc bien laisser Édom en paix, ainsi que ses possessions. Ils étaient les objets des soins de l'Éternel, qui s'enquéraient de chacun de leurs pas dans ce pénible désert. Il s'était chargé de tous leurs besoins. Il allait leur donner le pays de Canaan, selon sa promesse à Abraham, mais la même main qui leur donnait Canaan avait donné la montagne de Séhir aux descendants d'Ésaü. Nous voyons exactement la même chose par rapport à Moab et aux fils d'Ammon. Et l'Éternel me dit, « Tu n'attaqueras pas Moab, et tu ne te mettras pas en guerre avec eux, car je ne te donnerai rien de leur pays en possession, car j'ai donné Ar en possession aux fils de Lot. » Chapitre 2, verset 9. Et encore, « Et tu t'approcheras vis-à-vis des fils d'Ammon, tu ne les attaqueras pas, et tu n'engageras pas de lutte avec eux, car je ne te donnerai rien du pays des fils d'Ammon en possession, parce que je l'ai donné en possession aux fils de Lot. » Chapitre 2, verset 19. Les possessions dont il est fait mention ici avaient été autrefois entre les mains des géants, mais Dieu avait trouvé bon de donner ces territoires aux enfants d'Ésaü et de Lot. C'est pourquoi il avait exterminé ces géants. Rien ne peut s'opposer au conseil divin. Ce pays est aussi réputé pays des Réphaïm. Les Réphaïm y habitaient auparavant. Peuple grand et nombreux et de haute stature, comme les Anakim. Mais l'Éternel les détruisit devant eux, et ils les dépossédèrent et habitèrent à leur place. Comme il fit pour les fils d'Ésaü, qui habitent en Séhir, lorsqu'il détruisit les Horiens devant eux et qu'ils les dépossédèrent. Et ils ont habité à leur place jusqu'à ce jour. Chapitre 2, versets 20 à 22. Ainsi donc, Israël n'osa pas toucher aux possessions de ces trois nations, les Édomites, les Ammonites et les Moabites. Mais ensuite, nous voyons une chose toute différente pour le cas des Amoréens. « Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Regarde, j'ai livré en ta main Sihon, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence, prends possession et fais-lui la guerre. » Chapitre 2, verset 24. Le grand principe de ces diverses instructions à Israël, c'est que la parole de Dieu est ce qui doit avoir toute autorité pour son peuple. Israël n'avait pas à demander pourquoi il devait respecter les possessions d'Ésaü et de Lot et s'emparer de celles de Sion. Il n'avait qu'à obéir. Dieu peut agir comme il lui plaît. Il est le gouverneur de toute la terre. Il a ses raisons et ne rend pas compte de ses affaires. Il abaisse l'un et élève l'autre. Les royaumes, les trônes, les gouvernements sont tous entre ses mains. D'un autre côté, les hommes sont responsables de leurs actes dans les diverses positions où Dieu les a placés. Celui qui gouverne et celui qui est gouverné, les rois, les magistrats, les juges et toutes les classes d'hommes auront, tôt ou tard, à rendre compte à Dieu. Chacun, comme s'il était seul, aura à comparaître devant le tribunal de Dieu pour y passer en revue toute sa vie, du commencement à la fin. Chaque acte, chaque parole, chaque pensée secrète s'y verra avec une pleine clarté. Chacun sera jugé selon sa conduite. Rien ne sera oublié. De toute parole oiseuse qu'ils auront dite, les hommes rendront compte au jour de jugement. Matthieu 12, verset 36. Dieu n'a pas à rendre compte de ses actions. Et nous nous sommes tournés et nous sommes montés par le chemin de Bazan. Et Og, le roi de Bazan, est sorti à notre rencontre, lui et tout son peuple, à Édréhi, pour livrer bataille. Et l'Éternel me dit, « Ne le crains pas, car je l'ai livré en ta main, lui et tout son peuple et son pays. Et tu lui feras comme tu as fait à Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon. » Et l'Éternel, notre Dieu, a aussi livré en notre main Og, le roi de Bazan, et tout son peuple. Et nous l'avons battu jusqu'à ne pas lui laisser un réchappé. Et nous avons pris toutes ces villes, en ce temps-là, il n'y a pas eu de ville que nous ne leur ayons prise. 60 villes, toute la région d'Argob, le royaume d'Og en Bazan. Toutes ces villes-là étaient fortifiées avec de hautes murailles, des portes et des barres, outre les villes ouvertes, en fort grand nombre. Et nous les avons entièrement détruites, comme nous avions fait à Sihon, roi de Hesbon, détruisant toutes les villes, hommes, femmes et enfants. Et nous avons pillé pour nous toutes les bêtes et le butin des villes. Chapitre 3, versets 1 à 7. Les ordres divins concernant Og, roi de Bazan, sont les mêmes que ceux qui sont donnés au chapitre 2 au sujet de Sihon, roi des Amoréens. Voir chapitre 2, versets 24 à 37. Pour comprendre ses ordres, nous devons les considérer à la lumière du gouvernement de Dieu. Lorsqu'il agit ainsi, nous le voyons déployant sa puissance en justice, punissant les méchants, se vengeant de ses ennemis, renversant des empires, détruisant des cités et balayant des nations. Nous le voyons commander à son peuple de passer au fil de l'épée les hommes, les femmes et les enfants, lui ordonner de mettre le feu à leur maison et de réduire en cendres leur ville. Tout l'Ancien Testament nous donne les détails les plus précis sur les actes de Dieu en gouvernement. Nous avons le déluge au jour de Noé, où toute la terre, à l'exception de 8 personnes, fut détruite par les eaux. Les hommes, les femmes, les enfants, les quadrupèdes, les oiseaux et les reptiles furent tous entraînés et engloutis sous les flots du juste jugement de Dieu. Au jour de Lot, nous voyons les villes de la plaine avec tous leurs habitants, hommes, femmes et enfants, détruites en quelques heures par la main du Tout-Puissant. Le feu et le soufre sont versés du ciel sur les villes coupables, Sodome et Gomorre et les villes d'alentour. Ensuite, les pages inspirées nous montrent les nations de Canaan, hommes, femmes et enfants, livrés entre les mains d'Israël pour être exterminés sans miséricorde et sans qu'une seule personne n'y échappe. On pourrait multiplier les exemples, et dans l'Apocalypse, on assiste à la destruction finale du monde actuel. Sommes-nous capables de comprendre ces voies de Dieu en gouvernement? Avons-nous le droit de les juger? Sommes-nous à même de sonder les profonds et terribles mystères des actions de Dieu? Pouvons-nous, devons-nous, expliquer pourquoi des enfants innocents sont enveloppés dans le jugement de leurs parents coupables? Le croyant respectueux de la Sainte Écriture résoudra toutes ces questions par cette autre question. Le juge de toute la terre ne fera-t-il pas ce qui est juste? Genèse 18, verset 25. Si nous admettons que l'homme peut juger les voies de Dieu, qu'il peut se permettre de décider de ce qui est digne de Dieu et de ce qui ne l'est pas, alors vraiment, nous avons perdu le sentiment de ce qu'est Dieu. Il s'agit de choses qui sont autant au-dessus de notre portée que les cieux sont au-dessus de la terre. À ceux qui osent discuter les conseils, les actes et les voies du Tout-Puissant Créateur, du sage gouverneur de l'univers, l'apôtre adresse la grave question « Mais plutôt, toi, ô homme, qui es-tu qui contestes contre Dieu ? La chose formée dira-t-elle à celui qui l'a formée « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Le potier n'a-t-il pas pouvoir sur l'argile pour faire de la même masse un vase à honneur et un autre à déshonneur ?» Romains 9, versets 20 et 21. Si le potier a pouvoir sur le morceau d'argile qu'il tient dans sa main, combien plus le Créateur de toutes choses a-t-il pouvoir sur les créatures que sa main a formées? L'homme naturel, dont l'intelligence est aveuglée par le péché, est totalement incapable de juger sainement les choses divines. Quant au croyant, il se souviendra des paroles de l'apôtre, « Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu, pour la destruction des forteresses, détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance du Christ. » 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. La part des deux tribus est demie. Du verset 7 au verset 20 du chapitre 3, Moïse rappelle aux fils d'Israël l'histoire de leur victoire sur les deux rois des Amoréens et les faits concernant l'héritage des deux tribus et demie en deçà du Jourdain. À cet égard, il est intéressant de remarquer qu'il ne dit pas si ces tribus ont eu tort ou raison de choisir leur possession en dehors du pays de la promesse. Et nous avons pris possession de ce pays-là en ce même temps. Depuis Aroer, qui est sur le torrent de l'Arnon, la moitié de la montagne de Galaad et ses villes, je l'ai donné aux Rubénites et aux Gadites. Et le reste de Galaad et tout Basan, le royaume d'Og, je le donnai à la demi-tribu de Manassé. Et je donnai Galaad à Makir. Et aux Rubénites et aux Gadites, je donnai depuis Galaad jusqu'au torrent de l'Arnon, le milieu du torrent et ce qui y confine, et jusqu'au torrent du Jabbok, frontière des fils d'Ammon. Et en ce temps-là, je vous commandais, disant, « L'Éternel, votre Dieu, vous a donné ce pays pour le posséder. Vous passerez équipés devant vos frères, les fils d'Israël, vous tous, les hommes valides. Seulement vos femmes et vos enfants et vos troupeaux, je sais que vos troupeaux sont nombreux, demeureront dans vos villes que je vous ai données, jusqu'à ce que l'Éternel ait donné du repos à vos frères comme à vous, et qu'eux aussi possèdent le pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne au-delà du Jourdain, Alors vous retournerez chacun dans sa possession que je vous ai donnée. Chapitre 3, versets 12 à 20. Dans notre étude du livre des Nombres, nous nous sommes arrêtés sur certains faits en rapport avec l'établissement des deux tribus et demi, prouvant qu'elles n'étaient pas à la hauteur de la pensée de Dieu en choisissant leur héritage en deçà du Jourdain. Mais, dans le passage que nous venons de citer, il n'est pas fait allusion à ce côté de la question, parce que le but de Moïse est de placer devant la congrégation la bonté et la fidélité de Dieu en leur accordant de si éclatantes victoires sur les Amoréens et en les mettant en possession de ces contrées. Par là, il posait les bases des droits qu'avait l'Éternel à leur obéissance. Ce que Dieu a fait, il le fera encore. Et je commandai à Josué en ce temps-là, disant, « Tes yeux ont vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à ces deux rois. L'Éternel fera ainsi à tous les royaumes où tu vas passer. Ne les craignez pas, car l'Éternel, votre Dieu, est celui qui combat pour vous. » Versets 21 et 22. Le souvenir de ce que le Seigneur a fait pour nous dans le passé devrait fortifier notre confiance pour l'avenir. Celui qui avait accordé à son peuple une si éclatante victoire sur les Amoréens, qui avait détruit un ennemi aussi formidable que Og, roi de Basan, qui avait mis entre leurs mains tout le pays des géants, que ne pouvait-il faire pour eux? Il était peu probable qu'il rencontre au pays de Canaan un ennemi plus redoutable que cet homme, dont le lit de fer était de si énorme dimension que Moïse en fait la remarque. Chapitre 3, verset 11. Mais qu'était-il en la présence du Créateur? Les géants et les nains sont égaux devant lui. Le grand point est d'avoir Dieu lui-même devant nos yeux. Alors les difficultés disparaissent. C'est là le vrai secret de la paix et du progrès. Tes yeux ont vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait. Or, ce qu'il a fait, il le fera encore. Il a délivré, il délivre et il délivrera. Le Seigneur nous dit, quelque grande et insurmontable que paraissent nos difficultés, ne crains pas, crois seulement. Marc 5, verset 36. Il ne fait jamais défaut au cœur qui se confie en lui. Faisons usage des ressources qui sont en lui. Plaçons-nous, avec nos anxiétés, avec nos peines, entre ses mains. Remettons-lui tout. Et puis, à quoi sert-il de mettre nos difficultés entre ses mains si l'instant d'après nous les reprenons dans les nôtres? C'est ce que nous faisons souvent. Quand nous sommes dans une épreuve quelconque, nous allons à Dieu par la prière, nous rejetons sur lui notre fardeau et paraissons soulagés. Mais hélas, à peine avons-nous fini de prier que nous recommençons à regarder les difficultés, à mesurer l'épreuve, à nous arrêter à toutes les circonstances pénibles jusqu'à ce que tout soit de nouveau confus à nos yeux. Cela déshonore Dieu, et cela nous laisse malheureux et inquiets. Écoutons les paroles de l'apôtre. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et qu'arrivera-t-il alors? La paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Philippiens 4, versets 6 et 7. Dans ces versets, Moïse cherchait à encourager son compagnon et successeur Josué dans toute l'œuvre qu'il plaçait devant lui. De même aussi, l'apôtre Paul encourageait son cher fils et frère Timothée à se fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ, à s'en remettre en toute assurance à l'autorité, à l'enseignement, à la direction des Saintes Écritures, puis, armé et équipé de la sorte, à se mettre à l'œuvre à laquelle il était appelé. Une supplication refusée. Et en ce temps-là, je suppliais l'Éternel, disant, « Seigneur Éternel, tu as commencé à faire voir à ton serviteur ta grandeur et ta main forte, car quel est le Dieu dans les cieux et sur la terre qui fasse des œuvres comme tes œuvres et selon ta force? Que je passe, je te prie, et que je voie ce bon pays qui est au-delà du Jourdain, cette bonne montagne et le Liban. Et l'Éternel fut irrité contre moi à cause de vous, et il ne m'écouta point. Et l'Éternel me dit, « C'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisga, et élève tes yeux vers l'occident et vers le nord et vers le midi et vers le levant, et regarde de tes yeux, car tu ne passeras pas ce Jourdain. Mais commande à Josué, et fortifie-le et affermis-le, car lui passera devant ce peuple, et lui les mettra en possession du pays que tu verras. » Chapitre 3, versets 23 à 28. Il est bien émouvant d'entendre ici cet éminent serviteur de Dieu faire une requête qui ne pouvait lui être accordée. Il désirait voir ce bon pays au-delà du Jourdain. La portion choisie par les deux tribus et demie ne pouvait satisfaire son cœur. Il souhaitait poser son pied sur l'héritage même d'Israël. Mais cela ne devait pas être. Il avait parlé légèrement de ses lèvres, en Mériba, et par un décret irrévocable du gouvernement divin, il lui fut interdit de traverser le Jourdain. Ce fidèle serviteur de Dieu répète tout cela au peuple. Il leur rappelle que c'était à cause d'eux. Il fallait qu'ils le sachent. Mais il leur dit, sans la moindre réserve, que l'Éternel était irrité contre lui, refusait de l'écouter et de lui permettre de traverser le Jourdain, et lui ordonnait même de remettre sa charge à son successeur. Il est édifiant pour nous d'entendre cela de la bouche même de Moïse. Nous trouvons souvent très difficile d'avouer que nous avons fait ou dit quelque chose de mal, et de reconnaître devant nos frères que, dans une circonstance donnée, nous n'avons pas compris la volonté du Seigneur. Nous sommes soucieux de notre réputation. En termes généraux, nous admettons assez facilement que nous sommes de pauvres créatures faibles et faillibles, mais quand il s'agit de reconnaître franchement que, dans telle ou telle circonstance, nous nous sommes trompés, nous ne voulons pas l'admettre. Moïse, malgré sa haute position de chef du peuple, n'a pas eu honte de confesser sa faute devant toute l'assemblée de ses frères et de reconnaître qu'il avait dit ce qu'il n'aurait pas dû dire. Cela rabaisse-t-il Moïse dans notre estime? Bien au contraire. Il est remarquable d'entendre sa confession et de voir avec quelle humilité il courbe la tête sous le gouvernement de Dieu. Nous voyons une absence totale d'égoïsme dans sa conduite envers celui qui devait lui succéder. Il n'y a pas trace de jalousie, d'envie, ni d'orgueil froissé. Moïse s'humilia sous la puissante main de Dieu. Il accepta la discipline qui lui fut imposée et ne prononça pas un murmure lorsque sa requête lui fut refusée. Cependant, si le gouvernement de Dieu l'empêcha d'entrer en Canaan, la grâce le conduisit au sommet du Pisga, d'où, dans la communion de son Seigneur, il lui fut permis de voir le bon pays dans toute son étendue, de le voir non pas comme hérité par Israël, mais comme donné de Dieu. Il pourrait nous sembler étrange qu'un fidèle serviteur de Dieu comme Moïse n'ait pas obtenu la permission d'entrer dans la terre promise. La raison n'en était pas seulement que Moïse, comme représentant du système légal, ne pouvait introduire Israël dans le pays. Il y a plus. Moïse avait parlé légèrement de ses lèvres. Lui et Aaron, son frère, n'avaient pas glorifié Dieu en présence de l'assemblée. C'est pourquoi l'Éternel leur parla comme nous le voyons en Nombre 20, versets 12 et 23 à 26. Nous voyons ici les deux chefs de l'assemblée d'Israël, les hommes dont Dieu s'était servi pour faire sortir son peuple du pays d'Égypte avec des signes puissants et des miracles, à qui l'entrée en Canaan n'est pas accordée. Et pourquoi ? Parce qu'ils se sont rebellés contre le commandement de Dieu aux eaux de Mériba. Plus la position de ceux qui sont rebelles est élevée, plus la chose est grave, et plus aussi le jugement divin est sévère.